La danse des mots, Yvan Amar.
Bonjour, la danse des mots sur RFI qui retrouvera dans une vingtaine de minutes la puce à l'oreille dont je sais par une indiscrétion qu'elle est à la fois ludique et éclairante. Mais pendant les 20 premières minutes, je vous propose de parler de poésie avec Tristan Félix. J'ai eu une petite hésitation avec Tristan Félix qui est une poète parce que je me suis demandé si j'allais dire poétesse et j'ai opté pour une poète parce que poétesse, je trouve que ça fait un peu mairesse ou doctoresse avec des féminins qui n'ont plus vraiment cours. On va lui demander ce qu'elle en pense. Bonjour Tristan Félix.
Bonjour.
Poète ou poétesse ?
Poète.
Bon, je suis bien content, car nous ne nous étions pas concertés auparavant, que vous soyez d'accord avec moi. Vous êtes poète, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que vous écrivez beaucoup de poèmes, que vous retravaillez sur des poèmes écrits, ou bien que vous travaillez plus par rapport à l'improvisation ? En deux mots, quel est le rapport entre la création, l'ouvrage qu'on remet 100 fois sur le métier et inversement, et puis le risque de l'improvisation?
C'est beaucoup de questions en même temps. Je dirais que personnellement, mon rapport à la poésie, c'est plutôt un rapport de perception maximale au monde. Quelque chose que je dirais plus de l'ordre du corporel, du sensoriel, de l'organique. Après, ça suppose aussi un rapport à la langue particulier. Bon, il se trouve que dans mon histoire, j'ai eu un rapport particulier à la langue et qui m'a fait... être dans le besoin d'utiliser cette langue de façon différente que dans sa modalité vernaculaire ou commerciale, disons. Et
vous êtes une adepte du pas de côté par rapport à la langue.
Voilà, du pas de côté, voire de la claudication. Et pour moi, la poésie, c'est bien sûr user de cette langue, écrire des poèmes, mais c'est aussi décliner ce rapport... au monde, sur tous les fronts que je peux, que ce soit sur le mode de la marionnette, ou le mode du chant, le mode du parler étranger, ou du parler imaginaire, ou sur le mode du dessin également.
Et d'ailleurs, vous proposez des spectacles, et j'en profite pour faire l'annonce du prochain, qu'on pourra voir deux fois au mois de janvier, samedi 21 et dimanche 22, et puis deux fois au mois de février, samedi 25 février, dimanche 26 février, tout ça à Paris dans le 18e arrondissement, dans un drôle de petit lieu qui s'appelle les Blondes Ogresses de Montmartre.
Oui, c'est un théâtre de poche, il n'y a que 36 places. Mais c'est bien parce que si c'est 3 à 9 et le 9 se renverse, donc on est aussi dans un rapport d'infinité dans ce chiffre.
Et tout à l'heure, vous avez prononcé l'expression « écrire de la poésie ». Donc pour vous, ça veut dire quelque chose, écrire de la poésie. La poésie peut correspondre, même si ce n'est pas sa modalité unique, à quelque chose qu'on écrit.
Oui, qu'on écrit, je dirais même qu'on inscrit. Si j'ai bonne souvenance, l'écriture, graphein en grec, c'était déjà la blessure du soldat, une blessure occasionnée par une lance. C'est aussi la scarification. Et écrire de la poésie, c'est inscrire quelque chose quelque part.
Ça tient de la cicatrice?
Oui,
d'après
la cicatrice,
ce que vous évoquez.
Du marquage dans le corps. Ça peut être un marquage psychique aussi. Ou de façon peut-être plus extraordinaire, je pense aux géoglyphes.
Dites-nous un peu ce que c'est qu'un géoglyphe. Je ne sais pas.
Je crois que c'est un, puisqu'on dit un hiéroglyphe. Ce sont ces grandes inscriptions sur les montagnes. Je crois qu'il y en a au Pérou, mais je ne suis pas une grande géographe. Et cette idée que des gens, on ne sait toujours pas comment, aient pu inscrire des immenses signes sur des parois abruptes, pour moi, c'est peut-être déjà, sans compter les inscriptions dans les grottes, un rapport... au monde qui fait table rase de ce qui est déjà connu, voilà. Et en plusieurs milliers d'années encore après, voilà.
Alors, il est tout à fait banal de dire qu'un écrivain travaille avec sa langue, ou avec une autre langue peut-être, mais qu'il invente une langue qui lui est propre à partir de la langue qui est commune à tous les locuteurs, au sein de cette langue. Est-ce que c'est la même chose pour la poésie ? Est-ce que vous diriez que c'est encore plus vrai, que c'est une invention au carré, qu'il n'y a pas de poésie sans langue inventée par le poète au creux de la langue qui est partagée.
Je vous répondrai par une petite anecdote. Lorsque j'étais au lycée, en seconde, j'avais une professeure de français qui s'appelait Madame Trividic. Et je ne sais plus quel était le poème qui était à l'étude. Et je lui demande un petit peu naïvement, je lève mon doigt bien, bien poliment, « Madame, que signifie le vers 3, par exemple ?» Elle me regarde et je dis déjà à l'avance que sa réponse m'a profondément marquée et bouleversée pour tout le restant de mes jours. Elle m'a dit « Mais mademoiselle, si le poète avait voulu dire quelque chose, il l'aurait dit. » Autrement dit, le vers ne voulait pas dire quelque chose, il n'était pas transcriptible dans quelque chose de connu, et qu'il lisait fondamentalement quelque chose d'autre. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris que la langue poétique était une langue étrangère, et qu'il fallait entrer dedans, puisqu'elle nous accueillait aussi à bras ouverts, il fallait entrer dedans et s'y perdre, voire s'y noyer. Et en France, il y a un problème avec la poésie, c'est qu'on est à la fois très inquiet d'une langue qui pourrait paraître absconse, parce qu'on se demande toujours ce que ça veut dire, et je pense que c'est pas la bonne question. Et à l'autre bord, on a ces poésies un peu, j'appelle ça la poé-réalité, qui nous comptent notre quotidien comme des slogans publicitaires.
Mais vous aimez jouer sur ces mots, qu'est-ce que ça veut dire, et non pas qu'est-ce que ça signifie.
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire, comme si la langue, comme si le poème lui-même avait ou n'avait pas une volonté de dire quelque chose.
Oui, ça.
Et que la volonté de dire quelque chose, elle se joue entre le poème qui existe et puis la personne qui l'entend ou qui le lit.
Il y a une circulation, il y a une génération du sens, une invention du sens. Vouloir dire quelque chose, c'est quelque chose de l'ordre du diktat, et la poésie est aux antipodes. Quand Baudelaire dit « Dans une terre grasse et pleine d'escargots, je veux creuser moi-même une tombe profonde », qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il veut, voilà, il s'enterre dans un trou. C'est pas ça qu'il dit. Il dit la langue, il dit sa langue à lui, évidemment avec des images sombres et terribles. Et comment sortir de cela, sinon s'il descend soi-même enterré ou noyé ou en s'offrant à bras ouverts,
ouais,
aussi.
Comme si la poésie était quelque chose qui ne se réduisait pas à la signification.
Bien sûr.
Ouais.
Je pourrais tenter une traduction de ce poème. Dans une terre grasse et pleine d'escargots, je veux creuser moi-même une tombe profonde. Et voilà, d'une certaine façon, je remplace une mélodie par une autre, mais c'est toujours une mélodie, c'est un rythme, et qui essaie de prendre le pli de ce qui est de la langue d'origine, la langue de Baudelaire, par exemple. On pourrait la traduire à l'infini.
Mais donc, Tristan Félix, vous aimez bien faire de la poésie dans des langues que vous inventez, au fur et à mesure que cette poésie sort de votre bouche.
Ist eine Buchkunst, Anna Ivanmar. Nach Istönde, Üfütetistik, in den Bachhunde, Verstappam Umberfass.
Alors, qu'est-ce qu'on vient d'entendre? C'est une langue imaginaire, mais c'est une langue qui a je dirais pas un modèle, mais qui a quand même un reflet, qui s'inspire d'une phonologie, d'une sonorité, d'une tradition.
Oui. Alors, j'ai toujours les oreilles à l'écoute, que ce soit dans le métro, mais surtout là, en l'occurrence, enfin, non pas là, en l'occurrence, d'ailleurs, là, c'est plutôt des ressemblances de langues yiddish, de langues allemandes, etc. Et j'ai beaucoup écouté les langues dans les films que je regardais, évidemment en version originale. Et je parle un pseudo-iranien de Kiarostami, un américain de Tex Avery, un africain de Souleymane Sissé, voilà, j'ai des langues qui... Voilà.
La seule dans laquelle vous ne pourriez pas faire ça et avec laquelle vous ne pourriez pas faire ça, c'est le français, j'imagine.
Oui, je pense.
Oui, parce que l'évidence de sa signification est trop proche.
Voilà.
Il faut qu'il y ait une étrangeté.
Une étrangeté, une distance, ouais.
Bonsoir.
Qu'est-ce qu'il y a?
T'as pas entendu un truc bizarre?
Si.
Qu'est-ce que c'est?
C'est le gaz. C'est le gaz dans l'appartement en dessous. Des fois, il y a des fuites, alors ça s'accumule, et puis s'il y a une étincelle, ça explose. C'est normal.
Oh.
Et qui dit explosion, dit détonation. D'où le bruit que tu as entendu tout à l'heure. Voilà.
Ah ouais, ouais, ouais.
Quoi?
T'es sympa le brûlé.
Oui, c'est normal. Je t'ai expliqué, il y a eu une explosion.
Oui.
Et l'agitation moléculaire due à cette explosion, l'agitation moléculaire,
ah ouais,
provoque une élévation thermique suffisante pour enflammer les matières environnantes.
Oui, oui.
C'est alors ce qu'on appelle la combustion. C'est normal.
Ah.
Tourmente.
Oui, oui. Alors,
Oui, Yolande, oui. Je t'écoute.
Mais l'œil, je voulais savoir, tout l'immeuble, il est en train de brûler, c'est bien ça?
Ben bah oui. Les matières qui ont servi à la construction de cet immeuble sont très fragiles, tu comprends?
Oui.
C'est normal, parce que de toute façon, il n'y a que des familles d'ouvriers, des étrangers, aussi pas mal d'improductifs.
Oui.
Alors le feu s'empare très facilement des matières.
Oui.
Et se propage. Nous sommes donc en présence d'un incendie.
Ah, un incendie.
Mais c'est normal.
Oui, 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 oui. Oui, 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 d'accord.
C'est normal, un texte de Brigitte Fontaine qui était dit ici par François Morel et par Yolande Moreau. Tristan Félix, je vous appelle comme ça parce que c'est votre nom de poète, alors que vous en avez un autre pour l'état civil, c'est
oui.
Muriel Martin.
Oui.
Vous avez eu beaucoup de pseudos comme ça, de pseudos poétiques?
Bah, jusqu'à l'année dernière, j'avais une vingtaine de pseudonymes qui tous signifiaient les deux côtés d'un personnage janusien. Ça peut être bon, évidemment Tristan, ça veut dire triste, et Félix heureux. Il y a son équivalent féminin, enfin j'ai plusieurs équivalents féminins, Laetitia Dolores, Albine Lenoir ou Saturnine Jovis, Gwendu, c'est du breton, ça veut dire blanc et noir, Mélanie Bianca, enfin bon, j'en passe.
Tous ces pseudonymes avec oui. lesquels précisément vous avez signé des textes dans La Passe, à propos
voilà.
de J'en passe. La Passe qui était une revue littéraire
oui.
que vous avez créée avec d'autres
oui.
Et qui publiait des textes contemporains écrits
voilà.
chaque fois. Voilà,
et tous les deux fois par an, c'était une revue donc, des langues poétiques, sous-titrée des langues poétiques, et il y était question beaucoup de traductions d'ailleurs en langue imaginaire, notamment d'une traduction d'une langue à une autre. D'une autre à une autre et d'une autre à une langue imaginaire traduite en français. Bon, voilà, tout un jeu assez farcesque autour de la langue.
Alors, pour l'instant, cette revue est en suspens. Peut-être même qu'elle ne revivra pas ou qu'elle revivra sous un autre nom. En revanche, ce qui vit de façon épisodique, ce sont les troquets sauvages.
Qu'est-ce oui, que les troquets sauvages, alors, c'est une idée qui m'est venue il y a 5-6 ans, quelque chose comme ça. Et on en est à notre 9e édition. Ce sont des rencontres au départ d'amis, mais qui sont ouvertes à tous, dans un troquet.
Alors, c'est-à-dire
pour
un
l'instant,
café.
C'est, voilà, dans un troquet du quartier. Pour l'instant, c'est souvent au Véneto. Ça se trouve dans le 18e arrondissement, au métro Marquat des Poissonniers, chez Nordine. Et il y a toujours un thème sauvage. Alors, il y a une nourriture sauvage, amour sauvage, animaux sauvages, enfance sauvage, corps sauvage,
et pouvoir corps sauvage, sauvage. Oui, corps sauvage, je crois que c'était le dernier thème que vous aviez soumis.
Non, le dernier thème, c'était moi sauvage, parce qu'exceptionnellement, j'avais ouvert ces troquets sauvages à des lectures de textes personnels, alors que jusqu'à présent, il y avait une censure stalinienne qui consistait à ne lire
que
des auteurs de la littérature qui vous a bouleversé. Voilà.
Eh bien, on va écouter justement un extrait d'un texte qui a été lu lors de ce dernier troquet sauvage.
Par Marie-Christine Gueffier.
Viande que nous sommes, il criait le grouillant boursouflé, l'âme du Odénal, l'impensable anatomique, ses articulations discordantes lui tournaient les genoux vers l'arrière, les coudes inversés en atroces pliures, tout dépenaillé d'organes en bandoulière, de vésicules en pendeloques et draperies d'intestin Pauvre épouvantail de tripier, misérable mannequin médico-légal, les muscles rafistolés sur les os, à la va comme je t'arrache, tendons en épissure, nerfs survoltés et crépitante moelle sous tension, tête incongrue du fémur qui troue le bassin, charpie, organes et lambeaux, le sac à entrailles prêt à lâcher ses aspics. Oui, viande que nous sommes, viande ragougnasse, hoche-peau, barbac, boucané, goulash, carne faisandée, qui braillait en se touillant les tripes à pleine main. Ça fait des siècles, ça mijote dans son jus, ça fabrique boudin du sang de l'autre, ce mauvais voisin, et que ça saigne son cousin à gros bouillon, à pleine tranchée, à pète boyau. Hachis de chair à canon, bidoche de bidasse, glapissait encore l'écorché vociférant, le tendineux déshabillé, et se campait ferme sur ses cartilages de moignon, se peignant les fibres longues à grands coups de fourchette.
Viande que nous sommes, donc un texte écrit et lu par Marie-Christine Gueffier, qui rend bien justice quand même au thème que vous aviez donné, Moi
oui,
sauvage.
Oui, effectivement, j'insisterai aussi là, puisqu'on parlait tout à l'heure de mélodie, de phonologie, etc. On sent bien que là, c'est tac, tac, ti, pa, pa, sta, tac, da, ta, pa, ta, ta. Il y a
une pulsation.
Une manifestation de la langue. Et pour moi, la poésie, c'est cette manifestation physique de la langue. Donc vous me demandiez tout à l'heure, est-ce qu'on écrit la langue? Oui, on l'inscrit, mais on peut l'inscrire aussi dans le son, à l'oralité.
Et pour vous, il n'y a pas de poésie qui ne puisse être dite?
Si, il y a des textes qui sont, je pense, peut-être à terre, qui sont à silencer, je ne sais pas si ça existe ce terme, et d'autres qui sont plus à clamer.
Ah, des textes à terre, c'est oui. Pas mal. Terre, T-A-I-R-E,
oui.
C'est-à-dire qui se révèle dans la lecture silencieuse. Oui.
Non. On en revient à Baudelaire dans une terre grasse et pleine d'escargots,
oui,
etc.
Mais
c'est vrai qu'on
c'est...
se tait dans la terre.
On se tait dans la terre, mais en même temps, il y a des textes qui ne peuvent sonner qu'à l'intérieur d'une tête.
Bien sûr. Ouais.
C'est-à-dire que seule la lecture silencieuse leur rend justice.
Oui, et c'est quelque chose de mystérieux d'ailleurs. Parce que ce qu'on lit, parfois on entend un texte qui est très séduisant à entendre, et puis quand on le relit soi-même,
on est déçu.
Parfois, ça peut être le contraire également. Et puis, il y a une autre issue, c'est que le texte ne dit plus du tout la même chose s'il est lu silencieusement ou s'il est lu oralement.
Moi, c'est vrai que parfois, si on lit, on peut trahir un texte, alors que si on le lisait à voix basse, une floraison, épanouissement qui échappe tout à fait à la voix. Mais écoutez, merci beaucoup Tristan Félix d'avoir été avec nous. Les revenants de guerre se donnent donc aux Blondes Ogresses de Montmartre, en particulier le 21 janvier et le 22 janvier. Alors, une dernière question justement sur ce qu'on peut voir dans ces spectacles. On vous entend, mais on vous voit grimer, on vous voit sous une apparence particulière.
Alors, on me voit sous la forme d'un clown soldat qui revient de guerre, lequel se transforme en monstre, lequel se transforme en être humain, et lequel manipule et montre à voir comment des animaux, notamment des fragments de squelettes grimés, peuvent s'adapter à la vie après être revenus d'un désastre. Donc c'est un spectacle qui s'appelle Les Revenants de guerre, avec un jeu de mots sur les spectres, évidemment, et ceux qui reviennent de guerre, et qui est profondément ouvert sur la vie, puisque c'est comment s'en sortir.
Donc voilà. Il y en a un petit peu moins, puisqu'on a l'os et pas la chair,
oui,
et un petit peu plus parce qu'on a la parure et qu'on a le bijou. Merci beaucoup d'avoir
Merci
été avec nous dans cette danse des mots, Tristan Félix. Je rappelle que nous viendrons volontiers et en masse pour assister aux Revenants de guerre. Et maintenant, la puce, bien sûr.
La puce à l'oreille.
Bonjour Yvan.
Bonjour Lucie.
Alors ça y est, les primaires de la gauche arrivent à grands pas et les candidats jouent leur va-tout dans une course effrénée au meeting, à l'interview et à la conférence de presse. Et dans cette course sans pitié, nous avons pu le voir, certains n'hésitent pas à payer de leur personne. Mais mon cher Yvan, je vous le demande, le jeu en vaut-il vraiment la chandelle?
Voilà une belle interrogation.
Le jeu en vaut-il ou n'en vaut-il pas la chandelle? Voici donc l'expression qui nous intéresse aujourd'hui dans la puce, avec notre invité très éclairé et bien connu dans cette chronique.
Très éclairé, je vois où vous voulez en venir.
J'ai nommé le linguiste Daniel Lacotte. Mais avant d'entendre ses explications, eh bien on file écouter les CE1 de Madame Favrier à l'école Chaumel à Paris. Tenez-vous prêts, mes apprentis linguistes vont vous faire voir 36 chandelles.
Ça peut dire, par exemple, c'est pas important de gagner, que le jeu est terminé. Ça veut dire qu'il faut pas tricher. Quand on a gagné, c'est pas la peine de narguer les autres. En fait, quand tu l'achètes, ça coûte même pas un animal, enfin une chandelle. Quand on joue, il n'y a pas besoin que la chandelle elle soit allumée. Quand t'as gagné, il faut pas avoir la grosse tête. Peut-être que ça veut dire que si quelqu'un a gagné, on n'a pas besoin de bouder. Bah, par exemple, à Monopoly, si jamais tu tombes sur parc gratuit et il y a beaucoup d'argent au milieu, bah tu gagnes de l'argent, mais ça vaut pas une chandelle. Donc ça vaut beaucoup.
Ça sert à rien de gagner parce que le but du jeu, c'est de s'amuser.
Ça veut dire qu'il faut faire une revanche.
Alors Daniel Lacotte, il faut prendre sa revanche, ça vaut pas un animal, on gagne au Monopoly, ouais, qu'est-ce que vous pensez?
Le Monopoly c'était...
Les propositions c'était de cette classe de CE1.
Ouais, c'était quand même assez drôle. CE1, bah oui.
Moi, je pense, ils sont bons hein, quand même.
Je pense toujours qu'ils ont une imagination absolument exceptionnelle. Quoi. Bon voilà, alors il faut d'abord dire ce que ça veut dire. Oui. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Alors c'est plutôt au négatif, mais on peut dire le jeu en vaut la chandelle, mais c'est très très rare. Il vaut mieux dire le jeu n'en vaut pas la chandelle. Enfin l'utiliser dans ce sens-là, et ça veut dire cela n'en vaut pas la peine. Hein. Ça veut dire
ça vaut pas la peine de prendre des risques.
Voilà, c'est
de se décarcasser.
Voilà, c'est plus cher que ça ne rapporte. Hein. La chandelle est un objet de luxe. À l'époque de l'expression, elle est très ancienne, elle vient du 16e. Hein. Il faut donc se rappeler qu'il y avait, à cette époque-là, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas la radio.
Et que donc, on s'éclairait tous à la chandelle.
Et surtout pour jouer dans les tripots. Et donc, les chandelles étant un objet de luxe et étant plutôt chères, pour défrayer le tenancier, on donner un peu d'argent.
On cotisait.
Ouais, on jetait l'argent.
On dédommageait.
Dédommageait. Voilà. On jetait l'argent dans une écuelle en partant. Bon, voilà. On mettait.
C'était la participation pour l'éclairage, quoi. Donc, quand on jouait de l'argent, on imagine que on perdait, on se remboursait même pas la mise de départ pour l'éclairage.
Donc, cette expression est très belle parce que.
Donc, en fait, elle a à prendre au sens premier.
Au sens premier.
Le jeu n'en vaut pas la chandelle.
Vous jouez au jeu dans un tripot. Vous ne gagnez pas. Alors ça, c'est pire que tout, parce que vous ne gagnez pas, mais vous êtes quand même obligé
de
cotiser, donc ça coûte plus cher.
D'où l'idée que les pertes dépassent les bénéfices, qu'on disait tout à l'heure.
Voilà, c'est ça, que les pertes dépassent les bénéfices. Quoi.
C'est probablement de là aussi que vient l'expression « faire des économies de bout de chandelle
». Ah, oui,
c'est
ça.
On trouve un peu la même idée.
Bon, c'est exactement ça. Parce que quand notamment, ça, c'est pas dans le jeu, c'est plutôt dans les fermes, les chandelles valant, encore une fois, très très cher. Et donc, vous voyez, quand elle avait quasiment complètement brûlé, on la récupérait éventuellement, on la refaisait un petit peu fondre, on remettait une mèche. Et donc, c'est ça, les économies de bout de chandelle. Voilà.
Il y avait même une ordonnance royale qui obligeait le chancelier du royaume à restituer au trésor les tronçons des chandelles dont il s'était servi. Donc, faire des économies de bout de chandelle, on est loin de tenir la chandelle.
Oui, bon, ça c'est tout à fait
tenir
autre
la
chose.
Chandelle, ce qui veut dire assister,
une expression.
Être le témoin des badinages,
Des ébats amoureux, voilà.
Et puis pour revenir à cette idée de chandelle et d'argent, on dit aussi brûler la chandelle, parler de boue.
Oui, bah c'est gaspiller. Bah oui, dans la mesure où c'est cher, c'est un peu l'équivalent de ce qu'on des économies de bout de chandelle. Si on la brûle par les deux bouts, bah c'est complètement stupide. Devoir une fière chandelle aussi, c'est avoir une dette de reconnaissance envers quelqu'un. Et donc fier, il faut prendre le mot fier dans le sens de remarquable, grande, remarquable. Et donc c'est l'équivalent du cierge. De l'église chrétienne, cierge qu'on faisait brûler à l'église en témoignage de reconnaissance. Quand quelque chose s'était bien passé, on brûlait un cierge et
c'est en remerciement.
Voilà, ça vient de là.
On utilise aussi l'expression brûler la chandelle par les deux bouts pour aussi dire qu'on brûle sa vie.
parler de bouffe. C'est-à-dire qu'on ne se soucie pas des conséquences.
On mène une vie de patachon.
On mène une vie de patachon, on mène une vie de bâton de chaise.
De bâton de chaise, voilà.
Qu'est-ce qu'on peut trouver comme synonyme? Le jeu n'en vaut pas la chandelle, c'est dur. Il y a plus qu'à perdre qu'à gagner, le risque est trop élevé, tout ça c'est pas folichon.
Non.
On garde donc le jeu n'en vaut pas la chandelle.
Oui, ça vaut. On peut dire aussi ça vaut pas tripette. Hein.
Ça vaut pas tripette, oui c'est vrai. Eh bien figurez-vous qu'en Espagne, on dit l'enterrement vaut plus que la grand-mère. Sympa. En Belgique et aux Pays-Bas, on dit le bouillon ne vaut pas le chou. Donc, on trouve vraiment cette idée d'investissement initial et de retour. En Roumanie, on dit aussi plus grande la tare que l'impinte, c'est-à-dire que le contenu. Et en Belgique wallonne, la soirée ne vaut pas la chandelle, ce qui se rapproche quand même beaucoup de l'expression qu'on connaît en France.
Absolument.
Eh bien, merci Daniel Lacote. Ça valait vraiment la chandelle pour le coup de vous avoir dans la puce aujourd'hui. Je rappelle que vous venez de faire paraître le Dico des mots pour briller en société aux éditions Attier. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour une autre puce. En attendant, je rappelle aux auditeurs que vous pouvez retrouver l'intégralité des puces à l'oreille sur le site RFI Savoir, Savoir avec un S, en tapant la puce à l'oreille dans le moteur de recherche tout simplement. À bientôt Daniel.
À bientôt Lucie.
Merci beaucoup Lucie Vouteloup pour toutes ces chandelles et toutes ces explications. Merci aussi à Daniel Lacote bien sûr et à Muriel Martin avec qui nous étions dans la première partie de cette danse des mots, une émission proposée par le réseau Canopé et par RFI et par Véronique Durand et par Lucie Vouteloup et par Yvan Appert.